lundi 4 décembre, 14h30. Je suis de retour à la fonderie, cette fois-ci pour rencontrer Alexis Forestier de la compagnie Les Endimanchés. Ils doivent en effet nous présenter leur dernier spectacle intitulé Module Dada, mercredi et jeudi à 20h. Un spectacle qui doit notamment explorer la figure de Hugo Ball et le cabaret Voltaire qu'il a fondé à Zurich. Un spectacle pour nous plonger dans l'histoire de Dada qui utilise comme matière première, entre autres, Lipstick Traces, l'histoire secrète du XXe siècle de l'américain Gail Marcus. Un ouvrage sulfureux et brillant, encensé par la critique. La compagnie des Endimanchés est en pleine répétition et dès que je passe la porte de la grande salle noire de la fonderie, je suis aussitôt plongé dans l'ambiance.
En Suisse, il sera nécessaire d'approprier maximum 30 000 bourgeois et de saisir toutes les banques.
Ce n'est pas seulement la maladie des Suisses et des Russes, mais celle de tous les sociodémocrates du monde que se penchant morose à la conciliation. Pour l'amour d'une unité factice, tout le monde est prêt à sacrifier ses principes.
La scission, voilà le problème principal. Tous ceux qui tergiversent sont en l'occurrence ennemis du prolétariat, un vrai révolutionnaire ne redoute jamais la scission.
Faire scission, faire scission partout et toujours. Faire scission à toutes les étapes du mouvement, jusqu'à n'être plus que la fraction la plus petite.
Tout cela, on dirait que Lénine vient juste de l'inventer. À l'instant, devant cette table, apocalypse fulgurante et péremptoire, la scission du parti et par la scission du parti,
quelle patience il faut avoir pour ne pas exploser!
Est-ce que vous ignorez que la Suisse est le plus révolutionnaire de tous les pays du monde? Parce que la Suisse est le seul pays où le soldat garde par le vernis son arme! Et c'est l'élection!
Alexis Forestier donne ses consignes aux deux comédiens et deux comédiennes habillés de rouge qui se trouvent sur scène. J'en profite pour m'amuser avec un petit xylophone qui traîne ici. Puis, pour porter mon attention sur la scénographie du plateau.
Des disques blancs en suspension, des panneaux partout, des toiles, des câbles. C'est un chaos joyeux qui se dessine sur ce plateau, un chaos qui pour autant donne une impression d'ordre. Les spectacles des Endimanchés sont en règle générale comme ça, des chaos ordonnés. Fait de montage de structures diverses, mais aussi de collages de sons, de formes, de morceaux, de langues également. On y retrouve un foisonnement de textes et d'idées. Et j'ai l'impression que ce nouveau spectacle qui va nous être donné à voir au monde n'échappe pas à la règle.
Tandis que les comédiens et comédiennes se préparent sur le plateau et remettent le matériel en place, je m'installe sur les bancs à côté d'Alexis Forestier. Nous commençons à parler des textes qu'il nous présente, des sources qu'il a utilisées pour ce spectacle, Alexandre Solzhenitsyn et plus précisément son livre « Lénine à Zurich » arrive sur la table.
Oui, évidemment, c'est dans une logique vraiment contre-révolutionnaire assez marquée, assez déplaisante par moment, mais avec la plume quand même de Solzhenitsyn. Et puis en même temps, c'est assez fouillé et il a pas mal d'éléments sur le qui recoupent, dans des petites choses qui recoupent certains éléments des biographies. Les biographies de Lénine, mais...
J'ai vu la description du spectacle qui faisait état de Lipstick Traces.
Lipstick Traces est vachement présent, mais en fait, il y a une grosse séquence sur Hugo Ball et Kropotkin, une autre sur Lénine, avec un peu des documents paradoxaux et des hypothèses un peu contradictoires concernant la rencontre ou non entre le groupe zurichois et Lénine. En fait, c'est un peu ce qui a donné lieu à tout un tas de spéculations, de recherches, de controverses, y compris faites de témoignages des différents groupes, des différents membres de Mandada, quoi.
Le spectacle reste centré sur cette figure de Bâle, alors ?
Pas, non, essentiellement.
Vous en extrayez.
Après, on s'en extrait.
Notamment dans Lipstick Tracy, ça parle du situationnisme aussi, exactement.
Ouais,
vous y allez jusque-là ou pas ?
Ouais, mais à la fin.
Ouais, okay.
Et notamment, on fait.
C'est une ouverture, quoi.
Ouais, on fait revenir Lefebvre et des héritages comme ça qui seraient un peu. Enfin, la question de l'héritage de Dada, mais plutôt des héritages.
Le lettrisme ?
Mais non, mais des héritages un peu, au contraire, un peu imprévisibles.
D'accord.
Il y a notamment Lefebvre est assez présent, tu vois. Or, en effet. Grail Marcus parle de Lefebvre, mais il se trouve que Lefebvre laisse d'assez belles pages sur le Dada, lui, sur Dada aussi, okay. Dans Le Temps des Méprises. Et puis il y a les questions de Stockhausen un peu, mais enfin, il n'y a pas vraiment, si tu veux, de c'est pas manifeste quoi, la question de l'héritage. C'est plutôt des espèces de ramifications.
Parfois des morceaux de pièces reprennent, mêlant mélodie rock et même chant d'opéra, l'univers des endimanchés est ainsi fait. Je m'efface quelques instants pour laisser la répétition suivre son cours.
Tu veux reprendre au début du Kegel Club ?
Ouais. Allez.
Le Kegel Club. Tel est le nom qu'on donnait à leur assemblée du restaurant Stussyhoff. Point de quille pourtant. À son arrivée, au dernier printemps, Lénine avait d'abord tenté de réunir les émigrés russes pour leur faire des conférences. Mais ils s'étaient tous esquivés et les avaient boudés. Alors, il avait fait porter ses espoirs sur les jeunes Suisses. Travailler la jeunesse, disait le camarade Lénine.
C'est super résonnant et tu vois, c'est super agressif la voix, je trouve. Et je sais pas, c'est un peu parce que je me dis quand il y a des moments un peu doux comme au début,
okay.
Tu vois, ou alors toi il faut que tu sois plus
mais
tranquille,
moi,
mais tu vois, c'est super claquant, je trouve pour le moment. Hein, pas, tu vois, et comme ça, c'est pas un moment fort qui a une vraie montée. On se dit si on part avec cette intensité là, mais je pense que c'est lié aussi, tu vois, plus c'est au début, c'est un peu plus chaud et un peu plus invitant, non?
Ouais. Le Kegel Club. Tel est le nom qu'on donnait à leur assemblée du restaurant Stussyhoff. Point de quille pourtant. À son arrivée à Zurich au dernier printemps, Lénine avait d'abord tenté de réunir les émigrés russes pour leur faire des conférences. Mais ils s'étaient tous esquivés et les avaient boudés. Alors, il avait fait porter ses espoirs sur les jeunes Suisses. Travailler la jeunesse, disait le camarade Lénine. Il n'y a que ça de vrai. La guerre, une mystification. La neutralité, une mystification. La neutralité reviendrait donc au même que la guerre. La défense de la patrie ne sert qu'à berner le peuple. Elle n'a rien à voir avec la guerre pour la démocratie. En Suisse, pas plus qu'ailleurs.
Mais à refuser la défense de la patrie, nous laissons le pays sans défense.
Question mal posée. Il faut dire ou bien nous nous faisons tuer dans l'intérêt de la bourgeoisie impérialiste, ou bien nous réussissons en Suisse la révolution socialiste.
L'abjection du pacifisme, c'est qu'il rêve de paix sans révolution sociale. C'est une inconséquence. Cette révolution est absolument nécessaire à la suppression de toutes les guerres.
L'extrait des modules Dada que l'on joue devant moi revient donc au point où il en était lorsque je suis entré dans la salle plus tôt. Mais les comédiens et les comédiennes continuent de dérouler leur jeu. Et bientôt, les saturations noise cessent pour être remplacées par un univers céleste de dissonance électronique, tandis que derrière, le mobilier bouge, le plateau est vivant. Il passe son temps à se mouvoir, à être déplacé. Là, on pousse une table. Là, on tourbillonne. Là, on fait avancer de grands tambours haut perchés sur leurs échafaudages. Sur l'un d'eux, une ombre se dessine. elle évoque un motif cubiste ou bien dada.
Bientôt la fermeture. Tout le monde s'en va. Ils se séparent, achevant leur conversation sur la place toute glacée de cailloux ronds. Elle semble close. Qui ne connaîtrait les coulées des rues pourrait se croire pris au piège, prisonnier, claquemuré. Certains descendent la déclivité au pavage inégal pour atteindre le quai par quelques venelles, d'autres prennent par la brasserie du Franciscain. Vili, avec Lénine qui l'accompagne, prend la même rue dans l'autre direction. Il passe devant le cabaret Voltaire qui fait l'angle du carrefour voisin. Le noyau dadaïste zurichois y a passé la nuit. Après le Voltaire, ils obliquent brutalement vers un antique réverbère de fonte dans une rue qui monte en escalier. On peut presque toucher les deux murs en écartant les bras. Il est difficile d'y marcher à deux de front. Et ils montent. Ils montent.
Faux! Erreur historique, ils y sont entrés au cabaret Voltaire. Lénine, Willy et d'autres camarades, et c'est bien là, la scène primitive. Cette scène qui a dû se répéter rituellement tant de fois par la suite. Dans le local enfumé, la foule se presse jusqu'au pied de l'estrade. Elle-même trouillante d'une faune joyeuse. Le cabaret fut un succès immédiat. Une capacité de 50 places, il était plein tous les soirs. Comment ? Habitant 5 numéros plus loin, dans la même ruelle des miroirs. La Spiegelgasse, comment Lénine aurait-il pu ne rien en entendre et ne pas y passer, ne serait-ce que le bout du nez ?
Activée par un système de cordes et de poulies, une prothèse de jambe vient tout à coup s'élever dans les airs avant de retomber. Elle s'affole, elle danse un drôle de ballet, percute le sol. Un banc de métal l'imite également et se met à danser dans une étrange suspension.
Anti-fishing!
Après cet extrait de la pièce qui m'a emporté loin, très loin, je peux reprendre ma conversation avec Alexis Forestier. Un temps, nous évoquons la possibilité d'arriver en retard à son spectacle.
Voilà, même tu rentres en faisant un esclandre, en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ?»
Alors c'est Dada ici.
Ah, pour protester un peu.
Puis nous nous installons à une table, autour de café, et commençons ce qui est vraiment, promis cette fois-ci, le début de l'interview.
Nous on est plutôt sur un versant quand même historico-politique.
Oui, parce que vous basez à partir d'un livre d'histoire, une histoire secrète du XXe siècle,
oui,
c'est ça?
Oui, en partie, mais enfin, ça n'intervient qu'au bout d'un moment, les sources sont vraiment multiples. Hein. Bon, elles sont d'abord faites de beaucoup de témoignages et d'écrits des dadaïstes eux-mêmes, à commencer par Hugo Ball, en effet, qui est vraiment un peu le haut cœur. Et il se trouve que c'était déjà un peu sur lui et sur ce bouquin qui s'appelle La fuite hors du temps, qui est vraiment un document absolument magnifique. Espèce de prophète, enfin de, en tout cas de type qui introduit comme ça des questionnements, à la fois sur un plan philosophique, mais aussi concernant tous les bouleversements esthétiques auxquels ils vont être confrontés, des questionnements qui sont vraiment encore très très brûlants. Quoi.
Pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas forcément... Hugo Ball, le cabaret Voltaire aussi, on peut en dire quelques mots.
Voilà, absolument. Alors Hugo Ball était un homme, plutôt un homme de théâtre, plus âgé que les autres protagonistes du mouvement Dada, à savoir qu'il avait une trentaine d'années. Quand il est exilé, quand il décide de cet exil vers Zurich, vers la Suisse, tout en venant d'Allemagne, de Munich, puis de Berlin... jeune homme qui a à la fois côtoyé les cercles expressionnistes, le théâtre allemand auprès de Wedekind, mais aussi Max Reinhardt, etc. Donc vraiment touché, et qui avait une foi immodérée, démesurée dans la possibilité qu'aurait eu le théâtre, qu'avait le théâtre à son sens, enfin selon ses propos, de transformer la société. Tu vois. Et en même temps, donc une foi à la fois dans cette possibilité qu'aurait eu le théâtre, en même temps les études philosophiques et les aspirations comme ça un peu multiples du côté des théories anarchistes, etc. Une thèse en philosophie sur Nietzsche. Et donc à la recherche, tu vois, d'une espèce de rupture, sans doute d'un point de rupture que constitue ce mouvement Dada à un moment donné de sa vie pour lui, mais qui n'est qu'une parenthèse très brève. Et donc en fait, il vient à Zurich en 1915 et il vit là une sorte de désœuvrement terrible, s'interrogeant sur le sens que pourrait prendre son existence et la chose dans laquelle il pourrait s'engager, comme il le dit, corps et âme, avec la multiplicité d'intérêts qu'il a pour la beauté, la vie, le monde, et sa curiosité pour le contraire, tu vois, à savoir une sorte de nihilisme aussi.
Et donc, mais on est dans les prémices de Dada.
Là, on est dans les prémices.
Parce que Dada, c'est vraiment l'entre-deux-guerres plutôt. Hein,
voilà,
dès 1916,
Et donc, en 15, il arrive à Zurich, dans ce désœuvrement, ne sachant pas vers quoi il va se tourner, donc pour résumer, et ayant abandonné un peu derrière lui, tu vois, tout ça, et y compris ses études politico-rationnelles, comme il le dit, sont un peu... Enfin, il est très difficile d'y rester relié, c'est surtout une survie, quoi, en fait, c'est une survie, et en 1916, en début 1916, il ouvre le cabaret Voltaire, mais un peu avec une intention qui est très, très flottante, tu vois, de réunir la jeunesse suisse, et puis de solliciter un peu, toutes les... Enfin, c'est plutôt l'idée d'ouvrir un lieu de divertissement, en fait. Et finalement, on le rejoignent là Tristan Tzara et Marcel Ianco, qui eux sont exilés de Roumanie, enfin qui arrivent de Roumanie, Jean Harp et puis Richard Hülsenbeck, oui, qui lui fera partie ensuite du groupe Dada berlinois, oui, et donc d'une branche plus politisée que ne l'était le cercle zurichois. Et donc en février 1916 s'ouvre le cabaret Voltaire, et là ont lieu pendant 5 mois les premières expériences Dada, en fait, mais tout en sachant que le mot même de Dada n'arrive qu'au bout de quelques mois, quoi. Donc, ouais. euh, au, au moment de ces cinq mois de fonction.
Manifeste et écrit.
Voilà. Bah, plusieurs manifestes s'écrivent simultanément. À la fois, Hugo Ball en écrit, lui, mais son journal est ponctué au fond de petits fragments qui ont valeur de manifeste. Et puis, Zara, lui, écrit quand même des manifestes un peu ultérieurement.
Alors, ces modules Dada qu'on va pouvoir voir à la Fonderie ce mercredi et ce jeudi soir, l'objectif derrière, c'est quoi ? C'est de faire comprendre l'histoire du XXe siècle à l'aune du mouvement Dada ? C'est de donner à comprendre le mouvement Dada ? C'est d'expliquer le cercle zurichois ?
C'est un peu à la croisée de ces différentes intentions. En effet, c'est plutôt de révéler, si tu veux, quelles sont, plutôt que de dire Dada, c'est une émergence pure, comme ça, une spontanéité, tu vois, qui viendrait de nulle part, enfin, et d'une table rase du passé, c'est plutôt de s'appuyer sur des faits et des documents historiques paradoxaux et de tenter, j'ai bien tenté parce que c'est une tentative d'historiographie un peu du mouvement pour en révéler les arrière-plans politiques au fond. Donc un premier bloc qui s'interroge sur la relation, justement les relations un peu contrariées qu'entretient Hugo Ball aux théories anarchistes et notamment à la pensée de Kropotkine, puisqu'il c'était quelque chose vers quoi il était vraiment, ce sur quoi il s'est penché. Et ensuite un deuxième bloc où il est question là des hypothèses contradictoires concernant la rencontre entre Lénine et le groupe zurichois constitué, puisque Lénine habitait au moment où il prépare la révolution quand même dans la même rue.
Ouais.
Donc c'est quand même une chose. Tu veux, d'un point de vue historique, c'est quand même.
Et on dit beaucoup de choses sur Lénine, mais on pense pas forcément à son lien avec Dada.
Et il en avait. Alors on ne sait pas s'il en avait. Ouais. Mais c'est aussi cette part de
mystère
hein. et en effet cette part secrète de l'histoire. Tu vois, que Gray Marcus appelle l'histoire secrète du. Mais c'est vrai. S'il y a bien un élément qui est qui est quand même curieux, et jusqu'à Solzhenitsyn qui fait référence au cabaret Voltaire, disant que Lénine a tendance toujours à passer devant, mais sans y entrer.
Ouais.
Et puis Zara qui a tendance à dire, qui lui dit qu'il jouait aux échecs avec Lénine, mais qu'il ignorait qu'il était Lénine à l'époque. Tu vois. Et puis d'autres dadaïstes qui prétendent avoir rencontré Lénine, etc. Et au contraire, qui sont en train de refaire l'histoire à leur manière, parce que les dadaïstes n'ont cessé de revenir sur leur histoire et sur la légitimité, la paternité du mot, enfin, tu vois, etc. Ils n'ont cessé, comme le dit Marcus, au fond, de chercher toute leur vie durant ce qui leur était arrivé. Tu veux dire, ces cinq mois, et Marcus, il s'appuie là-dessus. C'est à la fois une expérience qui est tellement mineure, si tu veux, au regard d'un certain poids de l'histoire, d'une épaisseur de l'histoire. Il y a ces cinq types qui ouvrent un cabaret de divertissement et puis qui, en même temps, tu vois, qui ne cessent de se ramifier, mais par des voies qui ne sont pas seulement liées aux simples faits qui ont eu lieu là, mais parce
c'est un point nodal, quoi.
Voilà,
on est dans un point nodal de l'histoire.
De l'histoire, ouais. Et ensuite, on va donc, troisième grosse partie, la révolution spartakiste, et donc la relation... un peu plus tangible, je dirais, entre le groupe le groupe berlinois Dada, plus politisé, en tout cas certains membres comme Walter Mehring, Franz Jung, les frères Herzfeld, dont John Herzfeld qui deviendra ensuite le collagiste pendant la montée du nazisme, etc. Enfin, le type qui fait du photomontage. Des photomontages assez incroyables. Eux sont plutôt du côté du KPD, etc. Enfin voilà, du parti. Et puis certains proches de la Ligue Spartacus aussi. Bon, avec une certaine distance, mais en tout cas, il y a comme ça un. Et donc là, on trace l'histoire vraiment de la révolution. Enfin, on essaye de donner un récit de ce qu'a été le moment de préparation de la révolte spartakiste et les relations avec le un peu ambigu comme ça un peu incertaine avec le groupe berlinois.
Alors les endimanchés, chacun de vos spectacles fonctionne beaucoup sur le principe du collage de textes de plusieurs origines et vous en faites un bouillon comme ça qu'ensuite qui ressort en forme de spectacle, vous nourrissez de plein de textes qui arrivent. Est-ce qu'un jour on pourrait vous voir travailler sur un texte unique pour un spectacle ?
Mais oui, ça arrive en fait, hein, et notamment C'est vrai que le dernier projet qu'il y a eu, c'était le Dieu Bonheur. Donc, en effet, il y avait le texte de Müller, mais il y avait les brouillons aussi. Voilà.
Oui, exactement.
Voilà. Donc, souvent, en effet.
Dimitri Parti, c'était la rencontre de deux auteurs. C'était pas qu'un seul.
Ça, absolument, oui. Ouais. Non, mais si, oui, bon, c'est pas vraiment le projet actuel là, de travailler sur un texte unique.
Parce que vous concevez la création artistique comme aussi une recherche historiographique, comme le fait de se plonger dans une thématique.
Et la nécessité, c'est vrai, et la nécessité aussi de confronter des documents, en effet, un peu paradoxaux, enfin, ou contradictoires, ou qui vont entrer en collision, comme ça, les uns avec les autres.
En ça, c'est presque documentaire.
Une forme de c'est ça. Moi, je le perçois comme un théâtre document un peu. Bon, maintenant, mais ça va pas encore assez loin, peut-être, pour un théâtre document. Et puis, c'est quand même tourné vers le passé.
Il y a encore ce goût pour la langue allemande si particulière et le chant en allemand, même un chant d'opéra.
Oui. Bah là, en l'occurrence, c'est plus justifié peut-être que dans d'autres, puisqu'en effet, il y a beaucoup de textes dada qui sont, qu'on trouve dans la langue. Dans la langue de leurs auteurs, à savoir beaucoup d'Allemands, dont Hugo Ball en particulier, mais on a retrouvé surtout de très beaux textes de Walter Mehring. Barnabé a retrouvé des poèmes de Walter Mehring qui n'ont jamais été traduits en français et qui là sont le Berliner Tempo, justement, où il donne par une espèce de poème et de scansion comme ça rythmique à entendre le bruit et la rythmicité de la ville. De la ville de Berlin en 1918.
Les Endimanchés, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 80, c'était un groupe de rock ou de punk.
C'était
comment vous avez basculé du rock à ce goût pour le chant d'opéra et puis d'un coup au spectacle théâtral.
Il y a une dimension de rock et de post-punk et noise qui est très très présente encore. Et on est aujourd'hui relié à la scène. On peut dire noise expérimentale de manière encore bien plus fortement qu'il y a quelques années, puisqu'on a ouvert un lieu en Bourgogne qui s'appelle la Cacaillerie et qui est devenu un lieu de concert un peu relié à toute cette scène. Donc on a beaucoup d'amitié et de complicité musicale aussi notamment le vendredi, on va faire un concert des Cratères Lunaires ici. La Cratère Lunaire, c'est un nouveau projet avec André Robillard qui est plutôt un concert cette fois-ci, essentiellement un concert. Et on invite, on ne sait pas encore si Crinator ou Les Morts Vont Bien vont venir jouer. Voilà,
ce sera la Fonderie, c'est l'occasion de vous voir sous un autre angle aussi.
Voilà, sous un autre angle, qui est plus essentiellement musical. Mais en effet, l'histoire après Les Endimanchés, elle est longue à dérouler et il faudrait faire
l'objet. On va faire une émission spéciale là-dessus.
Ouais, tout à fait d'accord.
Volontiers à l'occasion. Ouais. Bon, là en tout cas, on va voir Module Dada. Et puis après, quelles sont les envies de prochaine exploration thématique? Est-ce que ça a déjà commencé d'ailleurs?
Ouais, ça a commencé et c'est pas sans lien avec le concert des Cratères Lunaires, puisqu'on fait un prochain projet qui va se nommer Volia Panique et qui est un projet qui explore l'histoire du cosmisme russe. En fait, et le cosmisme, c'est un mouvement mystico-scientifique qui s'origine au milieu du 19e siècle.
C'est pas un mot qu'on entend souvent.
Ouais, c'est très rare, ouais. Il y a très peu de choses, en fait, à vrai dire. Et en fait, en Russie, ça a une place de toute première importance, et notamment, puisque là, le sujet nous concerne également. C'est marrant parce que j'y songeais même l'autre soir lors de cette rencontre, évidemment personne ne va jamais. Il y a certains politiciens encore actuels qui prétendent qu'on ne peut rien comprendre à l'histoire du bolchevisme si on ne connaît pas parfaitement
le
cosmisme russe. Donc là, ça m'a beaucoup plu évidemment, parce que nous on va s'appuyer un peu sur des choses comme ça, des choses y compris un peu fantasmagoriques,
Module Dada des Endimanchés se sera à voir à la Fonderie, c'est mercredi et jeudi à 20h. Nous vous invitons vivement à réserver vos places sur le site internet www.lafonderie.fr pour obtenir plus d'informations sur la compagnie Les Endimanchés, sur Alexis Forestier et sur leur travail. L'adresse est la suivante, lesendimanchés.fr. Et justement, Alexis Forestier, vous pourrez également le retrouver ce vendredi soir toujours à la fonderie, toujours à 20h. Cette fois-ci, ce ne sera pas pour les modules d'Ada, mais pour nous présenter un format concert. Il se produira en effet avec son groupe Les Cratères Lunaires, un duo en réalité avec André Rubillard. Ce soir-là, vous pourrez également voir le groupe Crinator du label Mon cul, c'est du tofu. Et c'est justement Crinator que vous écoutez en ce moment avec un extrait de leur album intitulé Missa pro defuncis.